Je m'appelle donc Danielle Manès, j'ai travaillé très longtemps comme chercheur à l'Institut National de Recherche Pédagogique qui se trouve rue d'Ulm, dans un département qui s'appelle Didactique des Disciplines où je m'occupais du français et des problèmes de l'enfant et la langue à l'école. Et maintenant, je travaille toujours en association avec cet institut, mais j'enseigne à l'Université de Paris 5 dans le département de linguistique. Donc, je vous suis venue ce soir pour vous parler d'une recherche que nous avons faite avec André Chervel, qui est un historien de l'éducation, à mon avis le meilleur spécialiste de l'histoire des disciplines actuellement, de l'histoire du français en tout cas, qui est un homme tout à fait remarquable, qui est toujours à l'Institut National de Recherche Pédagogique et qui travaille dans le département d'histoire de l'éducation. Cette recherche, donc, nous l'avons terminée, le livre a été publié il y a 4 années, en 89. Donc un livre chez Kalman Levy qui s'appelle « La dictée, les Français et l'orthographe, 1873-1987 ». J'aurais besoin de temps en temps de vous citer des chiffres extraits de ce livre, donc je le feuilletterai devant vous. C'est pas gai comme un roman policier du tout, il est à la bibliothèque des Amis de l'Instruction si vous voulez le consulter. Voilà, alors de quoi s'agit-il? C'est une recherche qui a démarré sur un coup de chance extraordinaire. André Chervel faisait aux archives, juste à côté, des recherches sur l'inspection générale sur laquelle il écrivait. Et puis, il est tombé absolument par hasard dans un des cartons, ce qu'on appelle les cartons d'archives, dans un carton, sur 30 dictées du siècle dernier, de 1875. Puis ensuite, dans un autre carton, sur 30 autres dictées, puis sur 30, 50. Et puis, il m'a téléphoné. Nous étions très amis et il m'a dit... Il y a de quoi faire quelque chose d'extraordinaire. Nous avons trouvé en définitive aux archives nationales, par un hasard dont je vais vous expliquer l'origine, 3000 dictées du même modèle, du même texte, écrites il y a un siècle, qui vont servir comme point de comparaison. C'est la première qu'on ait historiquement, comme point de comparaison. Comment savait-on l'orthographe il y a un siècle? Et puis, comment la savait-on maintenant? Parce que ce que nous avons fait avec André Chervel, je vais vous expliquer comment, c'est que nous avons refait passer cette même dictée à un échantillon d'enfants contemporains de 1987, c'est-à-dire à un siècle de distance, nous avons pu comparer l'orthographe des Français. La découverte de ce gisement de dictée est une chance extraordinaire, je vais vous expliquer comment il nous est parvenu, est une chance extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on a dans l'histoire un point de comparaison qui soit pas les cahiers de notre grand-mère qu'on retrouve dans le grenier, ces beaux cahiers écrits à l'encre violette ou qu'on a conservé parce que la grand-mère a été reçue première au canton au certificat d'études. C'est la première fois qu'on a un lot complet très très important de travaux d'élèves, c'est-à-dire un véritable point d'appui pour une comparaison. Pourquoi nous nous sommes lancés dans cette opération? C'était évidemment pour contribuer au débat sur la question de la baisse du niveau, hausse du niveau, etc., etc. C'est un débat qui agite l'opinion publique de manière périodique, notamment à chaque fois que les flux scolaires changent, c'est-à-dire que la population scolaire change. Par exemple, en 1902, allons loin puisque vous êtes des amis de l'instruction et que c'est une vieille institution, en 1902, Georges Legge, un ministre de l'époque, a ouvert l'enseignement secondaire aux élèves à un enseignement moderne, c'est-à-dire sans latin. C'était une révolution absolument considérable parce que ça permettait aux enfants du peuple, aux enfants qui n'avaient pas commencé le latin comme on le faisait à l'époque, dès la 8e ou dès la 9e, comme on l'appelait à l'époque, bon, ça leur permettait de commencer des études secondaires. C'est une révolution à l'égal du collège unique de 1975. Et quand Georges Legge a ouvert le secondaire aux élèves qui ne savaient pas le latin, pendant 10 ans, il y a eu un débat extrêmement virulent sur la baisse du niveau. Les flux scolaires se sont augmentés considérablement dans le secondaire et par là même, immédiatement, on a parlé de la baisse du niveau. Il en est de même, nous sommes dans une période où on s'inquiète beaucoup de la baisse du niveau, depuis la réforme du collège unique, qui est quand même une victoire démocratique considérable. Il faut se rendre compte que dans ce pays, tous les enfants jusqu'à 16 ans fréquentent les mêmes lieux d'acculturation et de culture et d'enseignement, qui sont les collèges pour tous. C'est évidemment un pari difficile à tenir, mais par exemple, dans ma génération, nous étions 20% à rentrer en 6e, ils sont maintenant 97% à rentrer en 6e. Bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes enfants, c'est-à-dire il n'y a pas seulement, entre guillemets, l'élite scolaire, la population scolaire a changé, et par là même, une espèce d'inquiétude saisit l'opinion publique, et elle est répercutée de manière souvent très provocante et maladroite par la presse, le niveau baisse, le niveau baisse. Il s'agit de savoir le niveau de qui. Le niveau de qui? Si on compare 20% d'enfants sélectionnés à 97% d'enfants non sélectionnés, il est évident que le niveau n'est pas le même. Il faudrait comparer les 20% des meilleurs de maintenant aux 20% qui rentraient en sixième. C'est-à-dire que c'est un débat de toute façon très ardent sur lequel il faut avoir quelques points solides, raisonnables et raisonnés. Et je prétends, enfin nous prétendons avec André Chervel, que nous avons contribué à établir un point raisonnable de comparaison. Parce que, encore une fois, ce qui manque, toujours dans la comparaison sur le niveau, le terme absent est toujours le point de comparaison. Le niveau baisse par rapport à quoi? Quand on essaie de convaincre les gens, par exemple, que le niveau de seconde en mathématiques il y a 5 ans était le même que l'entrée à Polytechnique en 1957, les gens ne le croient pas. Et pourtant, c'est vrai. Il s'agit des programmes de mathématiques comparés. C'est-à-dire que le niveau monte dans des tas d'endroits, dans des tas de secteurs, il monte de manière absolument incontestable. Il nous faut toujours des points d'appui et avoir des points d'analyse qui se tiennent et qui fassent foi. Nous avons travaillé sur l'orthographe. Je n'ai pas une passion particulière pour la question de l'orthographe. Je crois une question intéressante néanmoins. Premièrement, parce que elle est, dans l'opinion publique, enfin dans le sentiment commun, elle est emblématique du niveau scolaire. Il n'y a rien à faire, une bonne orthographe est représentative d'un bon niveau scolaire, même si nous connaissons tous des gens brillants qui ont une mauvaise orthographe, etc. L'orthographe symbolise, concentre l'idée du niveau scolaire. En tant que tel, c'est intéressant. Si le sentiment populaire, le sentiment répandu, a cette idée a sa valeur et son poids. Et il est vrai, nous avons trouvé des corrélations très fortes entre le niveau en général et l'orthographe. Deuxième chose, c'est une chance extraordinaire de travailler sur l'orthographe parce qu'elle n'a pas bougé. L'orthographe au XIXe siècle, c'est une des rares choses qui n'est pas bougée. La mathématique du XIXe siècle n'est en rien comparable à la mathématique maintenant. L'histoire et la géographie telles qu'on l'enseigne quand elle est enseignée, c'est-à-dire en gros après les lois Jules Ferry, sinon elle n'est qu'expérimentale dans l'école française. Bon, on n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne en histoire et géographie maintenant, etc., pour ne pas parler des langues. Bon, par contre, l'orthographe, elle est immuable. Depuis 1835, qu'elle est fixée, que la référence au dictionnaire de l'Académie fait foi, le dictionnaire de l'Académie est la référence en orthographe, l'orthographe se maintient et ne bouge pas. Nous ne sommes pas dans la situation de l'Italie ou de l'Allemagne où il y a eu 4-5 réformes de l'orthographe depuis un siècle. Notre orthographe est très têtue et résiste au temps. Deuxième chose, la chance que nous avons eue, c'est que la dictée, elle aussi, c'est un exercice scolaire qui résiste. La dictée, on en faisait il y a un siècle, on en fait encore maintenant. C'est certainement le seul exercice scolaire qui se fait dans les mêmes conditions à un siècle de distance. C'est-à-dire que nous avons eu une grande chance quand nous avons trouvé un point d'appui pour comparer l'orthographe des Français à un siècle de distance. Nous sommes tombés sur un exercice qui existait et continue d'exister. Donc c'était une chance extraordinaire. Alors, la dictée de Bevin. Bevin d'Altenheim est un inspecteur général de l'instruction primaire. C'est un très haut personnage, il y en a 4 en France, c'est un des bras droits du ministre de l'instruction au XIXe siècle. Et Bevin d'Altenheim est certainement un monsieur assez obsessionnel, enfin ou entêté dans ses options, qui a été chargé. Alors, nous n'avons jamais retrouvé quelle était sa mission exacte. Mais il a été certainement chargé par le ministre de faire un état de l'instruction primaire dans les années entre 1873 et 1878. Pourquoi à ce moment-là, l'enseignement est sur la sellette depuis la défaite de 71? Vous savez que la défaite de 1871, on l'a attribuée notamment au bas degré d'éducation des Français par rapport aux Allemands, aux Prussiens. C'est-à-dire que l'enseignement était déjà obligatoire depuis longtemps en Allemagne, il ne l'était pas en France, et l'instruction allemande s'est révélée bien supérieure à la comparaison. C'était déjà montré par quantité d'inspecteurs qui allaient se promener outre-Rhin. Et ça a été montré d'une manière éclatante dès qu'ils se sont mis à administrer l'Alsace et la Lorraine, où ils ont décrété immédiatement l'enseignement obligatoire, où tous les petits Français se sont mis à fréquenter l'école en allemand, et où l'école allemande a montré sa supériorité. Nous sommes dans les années qui précèdent la grande révolution culturelle des lois Jules Ferry. Les lois Jules Ferry, c'est pas seulement l'école laïque obligatoire et gratuite, c'est aussi des réformes des programmes fondamentales, très très importantes. Et à ce moment-là, l'école française est en plein mouvement de rénovation. Alors, Bevin d'Altenheim, il est chargé de mission par le ministre. Je vous dis, on n'a pas retrouvé sa lettre de chargé de mission. Mais bien évidemment, il va aller inspecter le niveau des écoles françaises. Il a inspecté des écoles dans le quart du territoire français, ce qui est énorme, dans 86 cantons sur 300 et des pépites qu'il y avait à ce moment-là. Il a inspecté donc des écoles, un chef-lieu de département, une école dans un chef-lieu de canton, une école de commune et une école, il manque un intermédiaire, nom d'une pipe, arrondissement, voilà. Donc dans chaque département, il a inspecté 4 écoles et dans ces écoles, il a fait passer une dictée et un exercice de calcul. Alors je ne parlerai pas de l'exercice de calcul, pour les filles c'était des histoires de toiles qui valaient 3,25 francs au marché, il fallait tailler des tabliers là-dedans. Pour les garçons, c'était invariablement une histoire de carrelage. Il y avait une salle de 14 mètres carrés, il fallait mettre des carreaux qui faisaient 27,2 cm sur 23,4 cm. C'était les 4 opérations. Pour la dictée, la chance extraordinaire qu'on a eue, c'est qu'il a dicté plusieurs textes différents, mais de manière majoritaire, il avait une préférence pour ce petit texte, qui est une dictée donc de 83 mots. On en a eu, au XIXe siècle, 3224, cette dictée qui commence par « Les arbres s'enfoncent dans la terre par leurs racines comme leurs branches s'élèvent vers le ciel ». Alors, c'est une histoire assez amusante parce que moi, j'étais absolument convaincue, cette dictée est tellement parfaite pour l'orthographe et tellement tartignole que j'ai pensé que c'était une dictée faite ad hoc par un instituteur pour les élèves. Mais pas du tout. Chervel, qui est quelqu'un de... Il est génial, Chervel, vraiment. Et très entêté, c'est un historiographe remarquable, a recherché tout ce qu'avait bien pu lire Bevin au cours de sa propre scolarité et tous les manuels qu'il avait bien pu avoir en main. Et a fini par trouver que cette dictée était donc un traité de l'existence de Dieu destiné à la faible intelligence des plus simples. C'est un livre qu'a écrit Fénelon, c'est donc un livre du siècle classique, enfin du tout début du XVIIIe siècle, de 1702, écrit par Fénelon entre 1702 et 1712, où il démontre comment la nature est bien faite, comment les arbres sont merveilleusement faits, comment les rivières arrosent les champs, etc. Tout ça pour montrer la force de l'esprit créateur. Et alors, cette dictée de 83 mots, donc, Bevin l'a fait passer dans plus de 600 classes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois qu'il inspectait une école, il faisait un rapport extrêmement détaillé, dont nous avons eu grand besoin sur cette école. Il faisait un rapport sur cette école et il joignait à ce rapport les dictées soigneusement cousues au rapport. Et il envoyait le tout au ministre. Et c'est pour ça que nous avons eu cette chance extraordinaire de retrouver ce stock énorme de dictées un siècle et 10 ans après qu'elles aient été passées. Ces dictées portaient, les dictées de Bevin, étaient écrites avec la belle écriture expédiée de l'époque. Bevin jugeait l'écriture, d'ailleurs des enfants, corrigeait les dictées dans son hôtel le soir, et puis il mettait le nombre moyen de fautes, c'était un de ses critères de jugement de l'école. Par exemple, une école d'une commune, une école rurale, était jugée d'un niveau faible parce que les enfants faisaient 10 fautes en moyenne dans cette dictée. Alors cette dictée donc que vous avez sous les yeux, les arbres s'enfoncent dans la... Je l'ai dictée moi-même 130 fois, j'ai assez par cœur, encore 4 ans, 5 ans après. S'enfoncent dans la terre par leurs racines comme leurs branches s'élèvent vers leur ciel, leurs racines les défendent contre les vents, etc. Bon, cette dictée n'est pas si simple qu'elle vous paraît. Quand on a le texte sous les yeux, on se dit immédiatement elle est facile. C'est pas si vrai. D'abord, vous avez un usage pour lequel nous avons accepté 2 usages possibles. C'est l'urtige. Tous les sucs destinés à la nourriture de l'urtige, la tige elle-même se revêt d'une dure écorce. La tige, au temps de Fénelon, c'est le seul changement lexical notable qu'il y ait eu. La tige signifie tout ce qui dépasse de la terre. c'est-à-dire ce que nous appelons le tronc, et puis les branches s'appelaient la tige. Donc nous avons accepté un pluriel, leur tige, même s'il est repris ensuite par la tige. Alors ça, c'est le seul petit problème sur lequel nous avons été tolérants. D'autre part, dans cette dictée, le verbe « se revêt »,« se revêtir », c'est pas si fréquent. Nous avons une dure écorce, l'antéposition de l'adjectif est quelque chose qui pose problème, on dit une écorce dure. Divers canaux, c'est de la mauvaise langue, franchement, c'est pas dans divers canaux, c'est dans plusieurs canaux, c'est tout à fait déroutant. Les injures de l'air sont un usage un peu passé, mais enfin, les enfants pouvaient comprendre les injures, que ce soit ceux du 19e ou 20e siècle. Les injures veut dire les offenses, les agressions, dans son sens classique. Mais il y a des mots qui sont difficiles, comme souterrain. Vous êtes tous sensibles à ce que souterrain s'écrit pas du tout comme sous-marin, par exemple. Bon, les tuyaux, l'écorce avec son C et la corse avec son S sont sources de confusion nombreuses. L'abri qui devrait prendre un T s'il suivait les règles de dérivation normale du français n'en prend pas. Et puis vous avez un accord très pervers de l'accord du participe passé avec avoir, la sève que les racines avaient réunie dans le tronc. Cet accord, il doit y avoir en fait moins de 15% des Français qui savent le réaliser maintenant et ça n'a jamais été beaucoup plus brillant. Réuni peut s'accorder avec tout, avec la sève, avec les racines, avec le tronc, avec vous avez un environnement tout à fait déroutant et un accord du participe passé difficile. Bon, ceci dit, c'est une dictée qui est d'un niveau... Il y a une espèce d'échelle d'évaluation du niveau des dictées. Maintenant, c'est une dictée qui est d'un niveau de 12-13 ans. L'échelle du Boisbuise est une espèce de mesure de ce que les enfants doivent maîtriser comme orthographe selon leur âge. C'est une dictée qui est du niveau de 13 ans pour les difficultés qu'elle propose. Alors, qu'avons-nous fait avec Chervel ? Je vais vous décrire les trois étapes de la recherche, je vais vous donner quelques résultats et après on discute ensemble si vous le voulez bien. Même en sortant du cadre strict de cette recherche, évidemment. Première chose, aux archives, nous avons recopié toutes les formes fautives, c'est-à-dire nous n'avons pas fait seulement compter les fautes des dictées, nous avons recopié dictée par dictée la manière dont étaient réalisées les fautes, si je puis dire. Donc nous avons recopié pour le 19e siècle 23 744 ou quelque chose comme ça, formes erronées, ce que nous avons appelé les formes erronées, abri écrit avec un T, sans fonce écrit S-A-N-S, plus loin fonce, etc. Nous avons trouvé quantité de formes, par exemple sachez que la forme tuyau a 174 variantes différentes au 19e siècle. Et puis nous avons recopié quantité d'indications sur les rapports que joignait Bevin sur les écoles. Ces indications nous ont été très précieuses pour redresser nos résultats. Alors je ne rentrerai pas dans le travail statistique que nous avons fait, qui est un travail qui n'a été mis en question par personne et qui est d'une honnêteté absolue. Ce n'est pas une manipulation statistique, c'est un travail statistique. Mais je vous donne un exemple très rapidement. Bevin, par exemple, s'intéressait beaucoup plus aux écoles de garçons qu'aux écoles de filles. Et il a inspecté un quart d'écoles de filles et trois quarts d'écoles de garçons. Or, les filles sont bien plus mauvaises en orthographe que les garçons au XIXe siècle. Si nous voulions avoir un niveau des jeunes Français au XIXe siècle, il nous fallait redresser cette inégalité de traitement que Bevin avait fait dans son échantillon. D'autre part, Bevin aurait dû inspecter trois quarts d'écoles rurales, qui représentent la proportion du tissu scolaire au XIXe siècle. Or, Bevin s'intéresse beaucoup plus aux grosses écoles, les écoles de chef-lieu de département. Il ne respecte pas la proportion qu'il aurait respectée s'il avait été statisticien. Mais Bevin n'est pas un statisticien. On ne peut pas le lui reprocher. Donc, nous avons dû redresser les résultats que nous avons obtenus au XIXe siècle. Mais je passe là-dessus, je serai prête à répondre à toutes vos questions s'il en est besoin. Deuxième étape, qu'avons-nous fait pour le XXe siècle ? Alors là, nous avons mis en place un dispositif extrêmement rigoureux d'un échantillon représentatif d'enfants des mêmes âges. Bevin faisait reporter l'âge des enfants du XIXe siècle sur la dictée. Donc nous avons de même fait passer cette dictée à 3000 enfants de 10 à 15 ans du XXe siècle, en 1987-88. À 3000 enfants, ces enfants, nous les avons trouvés du CM2 à la 3e. C'est-à-dire que nous sommes allés, en emboîtant le pas à Bevin, un siècle après, nous sommes allés dans 130 classes où nous avons fait exactement comme Bevin. Nous avons dicté la dictée. Avec la ponctuation, nous savons que Bevin dictait la ponctuation parce que nous avons trouvé dans certaines dictées pente, beugule, ce qui signifiait que des enfants fortement patoisants ne comprenaient pas et écrivaient point, virgule, etc. Donc nous avons fait la même chose, nous avons dicté dans des conditions de rigueur qui ne se font plus maintenant, c'est-à-dire nous avons interdit aux enfants de nous poser des questions avant. S'il y avait des mots qu'ils ne connaissaient pas, nous leur avons dit « faites une hypothèse, débrouillez-vous ». Nous avons dicté comme des inspecteurs généraux, mais après nous avons fait des débats avec les enfants et c'était magnifique. Nous avons relevé toutes les formes erronées du XXe siècle. Et toutes ces formes erronées, c'est 50 000 fautes, 50 000 formes différentes. Nous avons fait rentrer dans un ordinateur, un gros ordinateur qui s'est mis à les faire tourner et qui les a classées. Ce que nous avons fait ensuite, c'est la troisième étape qui est très longue, c'est chacune des formes. Il existait 4000 formes différentes pour les 83 mots. Hein, quand je vous dis tuyau, il y a 174 manières de l'écrire différentes au 19e siècle. C'est un poème surréaliste. Vous avez cuyau, tuyau en deux mots, tuyau E-A-U-X, tuyau avec deux L, tuyau avec un seul L, tuyau avec un I, tuyau, etc. Enfin bon, je passe là-dessus. On a donné ce poème surréaliste pour tuyau, justement, dans le livre. Toutes ces formes, ces 4000 formes différentes, à chacune, nous leur avons donné un indice de gravité, si vous voulez. Nous sommes partis des formes les plus graves, que nous vont appeler la faute 1, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est les formes qui montrent que le mot n'est pas compris, que le mot est coupé, par exemple, qu'il est tronqué, par exemple, s'enfonce, écrit en deux mots. Par exemple, racine, écrit R-A-S et R-A-S, plus loin, 2-S-I-E-N-E-S, etc. Le mot n'est pas identifié, il est considéré comme deux unités. La faute un peu moins grave, c'était un phonème, ce que nous appelons un phonème, qui était raté, c'est-à-dire une lettre ajoutée, deux lettres ajoutées, par exemple, alibri pour abri. Ensuite, le troisième type de faute, moins grave, c'est un mot pour un autre. Par exemple, les âmes s'enfoncent dans la terre. C'est pas tout à fait une faute d'orthographe, mais c'est une faute quand même. Puis viennent les fautes de grammaire, dans lesquelles nous avons distingué trois types de fautes de grammaire. Puis viennent les fautes de lexique moins graves, c'est-à-dire le mot mal écrit, mais ce qu'on appelle les fautes d'usage. Bon, avec deux degrés dans la faute d'usage, car nous avons distingué la faute qui est la quasi-réussite. Nous considérons que abri, écrit avec un T, c'est un enfant qui connaît l'orthographe du français. Bon, abri s'écrit sans T, mais l'écrire avec un T, c'est connaître les règles du français, c'est connaître ce que nous appelons les moules graphiques. Voilà. Alors, nous avons classé toutes ces fautes, et maintenant, quelques résultats. Ils sont de deux natures. Nous avons des résultats qualitatifs, c'est-à-dire les formes, comment les formes ont varié. Est-ce qu'on fait les mêmes fautes au 19e qu'au 20e siècle? Donc en comparant les formes, et puis nous avons des résultats quantitatifs, c'est-à-dire des scores. Nous n'avons rien laissé passer. Et nous avons donné à toutes les fautes une sanction de 2 points, sauf pour les fautes de ce qu'on appelle les signes orthographiques, les accents, les traits d'union, les cédilles, pour lesquels nous avons donné 1 point. C'est-à-dire que la dictée qui a le plus fort score est la dictée la moins réussie, si vous voulez. La dictée qui a la plus catastrophique est au 19e siècle, elle a un score de 134 points. Ça fait comme 134, ça fait 67 fautes. 67 fautes sur 83 mots, c'est un enfant qui sait évidemment pas le français. Et la dictée la plus catastrophique, mais elle est unique, du XXe siècle, c'est 93 points, c'est-à-dire 46 fautes. Alors, le résultat global, une fois qu'on a redressé les biais, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les échantillons soient bien représentatifs, tant celui du XIXe que le XXe. À 13 ans, au XIXe et au XXe siècle, on fait le même nombre de fautes, en moyenne, et ne hurlez pas, 9 fautes. Quand je parle de moyenne, ça veut dire tous les enfants. Hein. Là-dessus, il y en a qui en font pas, il y en a qui en font beaucoup. Je parle de moyenne, je cherche le niveau, nous cherchons le niveau moyen des Français en orthographe. Mais comparer les 13 ans du 19e siècle aux 13 ans du 20e siècle, ça n'est pas une bonne solution. Parce que à 13 ans, au 19e siècle, la scolarité est terminée. On quitte l'école après la communion, au mieux, et lorsque l'école va devenir obligatoire, avec les lois Jules Ferry, l'école sera obligatoire jusqu'à 13 ans. C'est-à-dire, à 13 ans, au 19e siècle, c'est l'âge auquel L'école livre l'enfant à la société, l'enfant scolarisé à la société. Mais chez nous, la scolarité est beaucoup plus longue. Et il y a encore 50% d'enfants scolarisés, enfin de jeunes scolarisés, à 17 ans, 8 mois. C'est-à-dire que comparer les 13 ans du 19e siècle aux 13 ans de maintenant, c'est pas comparer des choses comparables. Donc, si vous voulez, voici les résultats auxquels nous sommes arrivés en ne préjugeant pas du fait que l'orthographe continue à progresser. On fait au 19e siècle 9 fautes en moyenne et on fait au 20e siècle à 15 ans 6 fautes en moyenne. C'est-à-dire que l'orthographe a nettement progressé aux âges où la scolarité se termine, aux époques respectives. Alors ça, c'est un premier résultat, 6 fautes de moyenne à 15 ans à l'issue de la troisième. Maintenant, les filles et les garçons. Je vous donne une série de résultats, comme ça, puis après nous discuterons. Les filles et les garçons, alors là, il y a une inversion historique. Au 19e siècle, les filles font beaucoup, beaucoup plus de fautes d'orthographe que les garçons. C'est-à-dire que, par exemple, à 12 ans, les garçons font 7 fautes de moyenne, tandis que les filles font 9 fautes. À 10 ans, les garçons font 8 fautes de moyenne, tandis que les filles font 12 fautes. Ceci, c'est les résultats bruts avant que nous ayons rééquilibré les échantillons. C'est pour ça que vous ne vous étonnez pas de trouver moins de 9 fautes. Mais enfin, bref, l'écart entre les filles font 50% de fautes, de plus que les garçons au 19e siècle. C'est pas étonnant. On s'intéresse beaucoup moins à leur enseignement, on leur fait faire de la dentelle et de la couture en classe, leurs institutrices sont beaucoup moins formées, il y a beaucoup moins d'écoles normales qui forment les institutrices de jeunes filles pour les filles que d'écoles normales pour les garçons, etc. Bref, il y a 1000 raisons pour lesquelles les filles sont moins bien scolarisées au 19e siècle qu'au 20e siècle. En revanche, au 20e siècle, les filles ont de manière constante un an ou un an et demi d'avance sur les garçons. C'est-à-dire que les garçons, par exemple, font à 11 ans 10 fautes et demie, alors que les filles n'en font que 9 et demie à 10 ans. Les garçons font encore 10 fautes à 13 ans, alors que les filles à 13 ans font moins de 7 fautes, 6 fautes et demie. Et alors là, nous n'avons pas d'hypothèse explicative. Nous ne savons pas pourquoi les filles ont une telle avance en orthographe sur les garçons, mais cette avance en orthographe est manifeste dès l'âge des 10 ans et ne se dément pas jusqu'à la fin de la scolarité que nous avons observée. On peut penser que les femmes sont meilleures en orthographe que les hommes. Il y a des tas d'hypothèses là-dessus. Ça a été observé. En gros, nous avons trouvé des traces d'observation de ce phénomène après la guerre de 14. Où des petites recherches locales, menées notamment en Belgique ou en Suisse, montrent que les filles sont bien meilleures que les garçons. Les pédagogues de l'entre-deux-guerres donnaient des explications. Nos petites écolières sont plus soigneuses, sont plus appliquées, elles ont le sens inné de l'orthographe. Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. La deuxième chose, c'est la progression de classe en classe. La progression de classe en classe, je vous ai dit, nous sommes allés voir des classes, donc du CM2 à la 3e, 26 classes de chaque niveau. Or, il y a quelque chose d'absolument remarquable, c'est que les scores, c'est-à-dire le nombre de fautes, quand je vous dis un score de 24, par exemple, ça veut dire 12 fautes, les scores s'améliorent d'une manière quasiment mathématique de classe en classe. Les enfants de CM2 ont 24 de score. Je ne parle plus d'âge, je parle des CM2 en moyenne. Dans les CM2, vous avez des gamins qui ont 13 ans, vous avez des gamins qui ont 9 ans. Alors, ils ont 12 fautes en moyenne, ils n'en auront en 6e plus que 10, ils n'en auront plus que 8 en 5e, plus que 5 en 4e et plus que 4 en 3e. C'est-à-dire que l'école fait son travail. Vous allez peut-être dire, c'est pas une réussite. Je vous ai dit, 5 fautes de moyenne à 15 ans, 6 fautes de moyenne à 15 ans. Mais ceci dit, de classe en classe, l'orthographe des Français progresse. L'école fait son travail, l'école est efficace, l'orthographe progresse. Deuxième type de résultat. Troisième type de résultat, qui est, lui, très déconcertant, enfin, mais tout à fait intéressant. De toute façon, il faut dire tous les résultats qu'on a. Je ne vous dirai pas tout ce qu'on a parce que ça nous prendrait 4 heures, mais la corrélation entre orthographe et échec scolaire. Alors ça, c'est un phénomène troublant. Vous savez qu'on n'a jamais pu prouver la relation biunivoque qu'il y aurait entre intelligence et orthographe. C'est-à-dire que, de manière générale, les bons élèves font moins de fautes d'orthographe, mais l'orthographe, il n'y a pas de relation entre des tests d'intelligence et des tests d'orthographe. C'est-à-dire que l'orthographe, oui, elle accompagne les bons élèves, mais elle n'est pas en soi un signe d'intelligence. C'est pour ça que des tas de gens l'ont désignée comme la science des ânes, bon, ou des bûcheurs pendant longtemps. Ceci dit, nous tenons tous à ce que l'orthographe soit respectée ici, hein. Je ne suis pas en train de faire de la démagogie en disant que l'orthographe n'est pas importante. Cela dit, l'orthographe est bien représentative du niveau scolaire. Parce que, regardez, si nous prenons les enfants de 6e, vous savez que nous vivons dans un univers scolaire où les tranches d'âge sont très importantes. L'âge normal en 6e, c'est 11 ans. Alors, si cet enfant de 6e a 10 ans, il fait 5 fautes. S'il a 11 ans, à l'âge normal, il fait 7 fautes. S'il a 12 ans, il a déjà un an de retard. Donc, il a eu un redoublement quelque part dans sa carrière. Il fait 11 fautes. S'il a 13 ans, il a 2 ans de retard. Il a redoublé par 2 fois. Et il fait 15 fautes. S'il a 14 ans, un enfant de 14 ans en 6e, il a redoublé au moins 3 fois. Il a 15 fautes. Et s'il a 15 ans, mais les effectifs sont si petits, j'ai pas à vous les citer, nous n'avons que 2 exemples. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une relation absolue entre résultats en orthographe et échecs scolaires. Je prends d'un autre point de vue. Je prends les enfants de 13 ans. Si cet enfant de 13 ans est en CM2, il fait 20 fautes. 13 ans en CM2, c'est 3 ans de retard. Si cet enfant de 13 ans est en 6e, il fait 15 fautes. Si cet enfant de 13 ans est en 5e, il fait 8 fautes. Si cet enfant de 13 ans est en 4e, il a un an d'avance, il fait 4 fautes. Et si cet enfant de 13 ans est 13 en avance, il fait 3 fautes. C'est-à-dire, vous voyez cette corrélation entre échec scolaire tout court et orthographe. Ça veut dire que l'orthographe est bien porteuse d'apprentissages fondamentaux dont vous parlez tout à l'heure, madame, c'est-à-dire lire, écrire. L'échec en orthographe est certainement lié à l'échec complet en orthographe, à l'échec des apprentissages initiaux. Voilà. Alors, d'autre part, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme résultat encore ? Fait-on les mêmes fautes au 19e siècle et au 20e siècle ? Eh bien, pas tout à fait, et ça c'est très intéressant. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très important entre le 19e et le 20e siècle. Au 19e siècle, on n'enseignait que l'orthographe. C'est-à-dire, l'école primaire du 19e siècle n'enseigne, jusqu'à Jules Ferry, n'enseigne que les éléments de la langue française, c'est-à-dire l'orthographe et la grammaire c'est fait pour l'orthographe. Et puis elle enseigne les quatre opérations et le catéchisme. Hein, depuis la loi Fallou, on enseigne le catéchisme. Le catéchisme fait partie de l'enseignement de l'école publique, des écoles, qu'elles soient congréganistes ou pas. Mais l'orthographe, on l'enseignait à coup de mémorisation, de règles apprises par cœur, de longues listes de vocabulaire. On y consacre à coup sûr beaucoup moins de temps maintenant. On faisait une dictée par jour au 19e siècle. Quand Bevin inspecte ces écoles, ce sont des écoles où on fait au moins une dictée par jour, si ce n'est deux. Alors, fait-on les mêmes fautes au 19e et au 20e siècle ? Eh bien non. Au 19e siècle, la proportion des fautes graves, les fautes de langue, est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que les fautes, nous avons appelé type 1, 2 et 3, les fautes de mauvaise segmentation de mots, les fautes où on rajoute plusieurs lettres et le mot est dénaturé, les fautes où un mot est mis pour un autre sont beaucoup plus nombreuses. Il y en a 20% au 19e siècle, 20% des fautes du 19e siècle concernent des fautes de langue. Il n'y en aura plus que 11% au 20e siècle. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé en un siècle, et l'orthographe en a profité, c'est l'acculturation à la langue. Il est évident que les enfants que Bevin inspecte, il y a un siècle, sont largement, pour beaucoup, des enfants bilingues, quand ils le sont vraiment. C'est-à-dire, Bevin inspecte, évidemment, dans une France qui est encore largement patoisante. En revanche, la proportion des fautes de grammaire est plus grande au XXe siècle qu'au XIXe siècle. C'est un des effets du fait qu'on n'apprend plus par cœur des quantités de règles, qu'on ne fait plus des quantités d'exercices d'application, qu'on ne consacre plus dans les écoles de France une heure par jour à l'orthographe. Faut-il le regretter ou non ? Nous en discuterons si vous le souhaitez. On fait plus de fautes de grammaire, mais on fait moins de fautes de langue. Ce qui s'est passé entre le 19e et le 20e, c'est l'acculturation à la langue. Les enfants écrivent intelligemment les textes. Ils font plus de fautes d'accord, oui, mais ils écrivent des mots qu'ils comprennent. Voilà, c'est un autre type de résultat. Et alors, ce qui est très intéressant, j'espère que je vais réussir à m'exprimer bien, c'est que l'évolution entre le 19e et le 20e siècle que je viens de vous décrire, c'est-à-dire plus de fautes de langue, moins de fautes de grammaire, plus de fautes de grammaire au 20e siècle, c'est la même que celle qui arrive dans la scolarité entre le CM2 et la 3e. Quelles sont les fautes qui disparaissent entre le CM2 et la 3e ? Ce sont les fautes graves de langue. Les fautes qui témoignent que la langue n'est pas comprise, pas maîtrisée. C'est-à-dire que l'évolution entre le 19e et le 20e siècle est la même que l'évolution entre le CM2 et la 3e. J'ai oublié de vous dire quelque chose, quand même. C'est que le zéro faute est un idéal auquel un nombre important d'enfants du 19e siècle parvenait. 10% de l'échantillon bovin, mais dont je rappelle que c'est un échantillon très sélectionné. Je vous rappelle, nous n'avons pas pu nous mettre à la place de Bevin et aller dans les écoles où il n'est pas allé, aller dans les écoles de filles où il n'a pas voulu aller plus, où il est si peu allé. Quoi qu'il en soit, au 19e siècle, il y a 10% de dictées zéro faute, parfaite. Il n'y en a plus que 2% maintenant. C'est-à-dire que l'idéal de l'orthographe parfaite est un idéal auquel il faut sans doute renoncer, si nous acceptons que nous avons gagné beaucoup d'autres choses par l'école. Enfin, c'est un idéal qui n'est plus réalisé. Bon, 10%, ceci dit, ce n'est que 10%. Sachant que nous avons tout compté, que le trait d'union de elle-même est une faute. Alors, la faute, la grande faute championne, la faute championne de toutes les fautes, c'est elle-même. Le trait d'union est, à mon avis, une cause perdue. C'est l'absence de trait d'union. 1434 au 20e siècle, sur 3042 enfants, ça nous fait presque 50% d'enfants qui n'ont pas mis le trait d'union. Ensuite vient la faute revêt. Ce revêt, écrit AIT comme le verbe rêver, 899 sur 3000, ça fait à peu près 30% d'enfants qui ont fait l'erreur. Il y a des fautes qui ont complètement disparu au 20e siècle. Par exemple, le mot ciel était écrit au 19e siècle très volontiers avec un C majuscule, le ciel. Nos enfants sont déchristianisés. Ils n'écrivent plus ciel avec un C majuscule. Le mot sève, le mot suc sont des mots qui sont connus au XXe siècle, qui ne sont pas connus au XIXe siècle, où les enfants font énormément de fautes. Voilà, si nous parlions un peu de didactique de l'orthographe, c'est-à-dire de la manière dont on enseigne l'orthographe maintenant, cette recherche nous a donné quelques petites idées. Par exemple, qu'il y a des fautes qui ne devraient pas exister, qu'il faudrait changer des petites choses dans l'enseignement de l'orthographe. Par exemple, destiné avec un accent aigu sur le destiné, destiné à la nourriture de leur tige. Devant deux consonnes, on ne met jamais d'accent. C'est une règle qu'on devrait apprendre et sur laquelle il ne devrait pas y avoir de faute. De même, le mot écorce avec deux S. Il n'y a jamais de séquence consonne plus double consonne en français, sauf, je crois, dans deux mots qui sont tince, que je tince, qui est très fréquent, comme vous vous en rendez compte, que je tince, et il y en a un autre, du même cru. Mais enfin, bon, sinon, vous n'avez jamais la séquence consonne plus double consonne. Écrire écorce avec R plus double consonne, ça devrait être une règle qu'on enseigne dès le début, c'est un moule graphique du français. Bon, ce sont des fautes qu'on trouve plus fréquemment au XXe siècle qu'au XIXe siècle. D'autre part, les fautes de doublement de consonnes. Les doubles consonnes sont un épouvantable héritage du latin. Les doubles consonnes ont en général été restituées entre le XIVe et le XVIe siècle sur le modèle des mots latins où en latin elles se prononçaient, les doubles consonnes. Alors, les doubles consonnes, c'est un des drames de notre orthographe. Mais ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, les enfants du XIXe siècle font des fautes de double consonne, ont tendance à doubler la consonne de destinée, de canot, de défendre. Mais les enfants du XXe siècle, beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle l'hypercorrection en linguistique. C'est la tendance, à tout hasard, j'en mets deux, j'ai peut-être plus de chance qu'en mettant une seule. Et ces phénomènes d'hypercorrection devraient être enseignés, contrariés dans la didactique de l'orthographe par le fait que la consonne simple est quand même bien plus fréquente. C'est-à-dire, si tu ne sais pas, tente le coup d'en mettre une seule. Bon. Or, les phénomènes d'hypercorrection, de doublement de consonnes sont beaucoup plus fréquents au XXe siècle. Que dire encore ? L'accord de l'adjectif, tiens, il pose plus de problèmes au XXe siècle qu'au XIXe, comme les fautes de grammaire de manière générale. L'accord de l'adjectif, il est difficile sur un mot qui pose déjà un problème. Ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Le mot souterrain, il faut vraiment réfléchir pour bien l'écrire. Un T, deux T, un R, deux R, un trait d'union, pas de trait d'union. Sous-marin, sous-terre, tout ça s'écrit de manière différente. Bon. Alors, l'accord de l'adjectif, donc quand il y a surcharge cognitive, comme ça, sur souterrain, est très fréquemment omis au XIXe, mais deux fois plus au XXe siècle. Ou alors, ce qu'on appelle l'accord rétroactif, c'est-à-dire quand le mot au pluriel oblige à revenir en arrière pour le mettre. Par exemple, la dure écorce. Un dur, écrit sans E, est fréquent au XIXe siècle, mais deux fois plus fréquent, mais c'est pas si fréquent que ça, hein, c'est 10% des enfants au XXe siècle. Quant à l'accord du participe passé, messieurs, dames, très respectés, je crois que c'est une cause perdue. Nous en parlerons après. C'est-à-dire qu'il y a 30% chauffés comme ils l'étaient au XIXe siècle, chauffés et surchauffés. Il y a 30% d'enfants, de jeunes, qui au XIXe siècle accordent réunis comme on l'attend, c'est-à-dire avec un E, et il y en a 14% au XXe siècle. Bon, vous pouvez tenir à l'accord du participe passé. Il disparaît de manière absolument inéluctable de la langue orale, et ce n'est pas des décisions humaines qui empêcheront l'évolution de la langue orale. Nous sommes tous en surnorme quand nous mettons l'accord du participe passé. Nous nous surveillons. La faute que j'ai faite, mais c'est parce que nous sommes des profs ou intéressés, parce que nous sommes des amis de l'instruction. À la vérité, cet accord disparaîtra inéluctablement de la langue. Nous pouvons le maintenir dans la langue écrite. Vous y êtes attachés. Ça dépend des opinions. Je vais conclure en vous disant, simplement, si faute à 15 ans, le niveau a incontestablement monté. Il a monté et tous les témoignages intermédiaires qui ne sont jamais de la qualité de celui qu'on peut apporter parce qu'ils ont été faits sur des petits échantillons, il y a des petites recherches qui ont été faites ici en Belgique, en Suisse et même en France sur des petites phrases. Toutes les étapes intermédiaires que nous avons pu voir sur le niveau de l'orthographe montrent que l'âge d'or de l'orthographe n'a jamais existé. C'est-à-dire que le niveau n'a jamais été meilleur que maintenant. Deuxième chose, jamais meilleur que maintenant, ça ne veut pas dire que l'orthographe soit un succès. Voilà la réalité. Six fautes à 15 ans, voici la réalité du pays. Faut-il souhaiter rétablir des exercices de conjugaison tous les jours, des règles apprises par cœur et des listes de mots apprises par cœur pour obtenir de meilleurs résultats, renoncer certainement à beaucoup d'autres choses qu'on fait à l'école? Faut-il s'en accommoder et faire de l'orthographe un usage? C'est un peu mon opinion, comme l'orthographe était un usage jusqu'au début du XIXe siècle. C'est-à-dire que le Voltaire que vous lisez n'a jamais écrit dans l'orthographe que vous lisez, sauf si vous lisez dans les exemplaires qui sont à la bibliothèque des Amis de l'Instruction. Hein, Voltaire écrit à trois lignes d'intervalle enfant avec EN ou avec IN, et il s'en fiche complètement, avec un T à la fin ou avec un S. Hugo écrit tant, bien que tout le monde, le dictionnaire de l'Académie lui impose tant et EMPS. Hugo, toute sa vie, écrira tant et EMS sans le P. Georges Sand refuse d'accorder le participe passé avec avoir. Bon, l'orthographe était un usage, on la mettait le mieux possible, il y avait des formes concurrentes, mais à part un fond stable, l'orthographe est respectée le mieux possible par ses usagers. Notre orthographe est aussi compliquée que le chinois. C'est l'orthographe la plus compliquée du monde, de très loin, qui laisse pantois les étrangers. Il laisse pantois les étrangers également la passion que nous portons à notre orthographe. Au moment de la guerre du Golfe, il y avait cette petite réformette qui était dans l'air. Et Libération titrait la guerre de l'orthographe 3 jours avant l'intervention dans le Golfe. C'était absolument extraordinaire. Bon, voilà la situation. Et j'en ai fini, et nous parlons un peu si vous souhaitez maintenant. Merci.
Bon, j'ai eu affaire à des publics très différents et j'ai pu comparer moi-même sur 38 ans, ce que j'enseignais il y a 38 ans, ce que j'ai enseigné l'année dernière.
Oui.
Bon, alors, c'est même si je pense, c'est une chance. D'abord, je voulais vous dire combien j'étais intéressée par toute la première partie du livre dont on n'a pas parlé. C'est l'histoire
de l'enseignement
de France,
oui.
Et là, j'avoue que j'ai beaucoup appris. parce que je ne sais pas si vous saviez qu'il existait une école obligatoirement dans chaque...
Dans chaque commune. Oui. Dans chaque commune, c'est une décision révolutionnaire qui date de 92. Chaque commune devra avoir une école et payer un maître. Alors le problème, c'est que ça n'a pas été effective pendant longtemps, mais vous avez une série de lois au XIXe siècle qui vérifient la loi Guizot en 1833.
Okay. Bon, pour ce qui est de la typologie, puisque vous avez dit comme ça, du classement des fautes, c'est tout à fait anecdotique. Mais d'abord, l'avenir, votre classement en 9 de grandes fautes, dans l'enseignement, on aura fait une... Par contre, il y a des choses sur lesquelles on ne serait peut-être pas d'accord, par exemple le brevet. Le mot ordre avec un H qui est une faute assez légère, puisque vous classez dans le 8, il me semble que c'est tout de même déformé complètement la langue. Quand on dit le mot ordre écrit avec un H, on sursaute. De même,
vous sursautez, mais.
Injure écrit avec un U, ça paraît gros. Écosse au lieu de écorce. Racine avec deux S, les mots sont complètement déformés. Et ça, c'est le type 8. Et par contre. Racine avec la cédille, alors vous dites aussi type 9 seulement, ça c'est assez durement sanctionné au brevet encore aujourd'hui. Il y a type malmise.
Oui.
Et si on était un petit peu plus rigoureux, on verrait peut-être moins sur des tas de pancartes, merci, c'est
ah oui, c'est cédille.
Je crois que ce serait pas mal. Bon, ça c'est tout à fait anecdotique. Alors sur le.
Écoutez, sur les arbres avec un H, les fautes fuites, alors madame a lu le livre, alors ça lui. J'explique peut-être un peu ce qu'elle dit. Les fautes fuites, c'est celles que nous. Je vous ai dit, ce sont les moules graphiques, c'est les quasi-réussites. Arbre avec un H vous choque, bien sûr, puisque vous savez bien qu'il n'y en a pas. Mais habit avec un H vous choque pas. Et harpe avec un H vous choque. Je ne pense pas, mais arpège sans H vous choque pas, alors que c'est la même étymologie. Il faut.
Notre langue a une histoire.
Oui. C'est un mot qui. Ce que nous avons appelé les fautes huit, c'est les fautes qui pourraient parfaitement exister dans la langue. Les mots qui pourraient parfaitement exister dans la langue. Mais bien sûr, mais arpège et harpe, je vous répète, ont la même étymologie. Il y en a un qui a un H et il y en a l'autre qui n'en a pas. Et huile n'a jamais eu de H en latin et a pris un H. Oh, mais j'en ai énormément, je peux vous en parler pendant deux... Non, non, elle ne confirme pas la règle. C'est-à-dire que l'orthographe est faite... Oui, oui, bien sûr, madame, mais elle est faite... Elle est faite d'énormément d'arbitraires qui se sont installés au fil des siècles. Et quand on a, nous, admis la forme arbre avec un H, c'est qu'on s'est dit, c'est un enfant qui connaît les mots de sa langue. Bon, il ne sait pas écrire arbre, mais bien sûr que ça vous choque, un H. Mais on l'a compté de points quand même, cette faute. Ne vous inquiétez pas, on l'a compté de points.
Je veux seulement dire que sur le plan de l'histoire de la langue, quand on enseigne, il y a des élèves qui ont fait un tout petit peu de latin, parce qu'ils n'en font plus guère maintenant dans le premier cycle, le quatrième, troisième, un petit peu en cinquième. Les élèves qui font du latin, on dirait que c'est peut-être aussi le point de départ, les élèves un petit peu plus éveillés, motivés, mais font généralement, on ne ferait pas ce type de faute, par exemple, ça n'est pas possible. Et l'orthographe, les résultats d'orthographe sont généralement bien meilleurs, parce que notre langue vient quand même du latin.
Elle vient pour beaucoup du latin, seulement le problème, c'est est-ce qu'il est juste que pour écrire l'orthographe de sa langue, il faille savoir le latin et le grec.
Oui, mais alors, il faut absolument l'orthographe phonétique, d'accord, donc ça c'est quand même...
Pas du tout, moi je ne suis pas du tout favorable à l'orthographe phonétique. Monsieur voudrait intervenir, oui.
Je n'ai pas lu votre livre, mais dans le dosage de vos fautes, est-ce que vous avez tenu compte de l'utilité des mots? Vous avez parlé d'usage de la langue tout à l'heure, vous venez de comparer arbre et arpège. Bon, il me semble que si on met un lâche à arbre, c'est une vraie faute. Si on en met un à arpège, ou si on n'en met pas à arpe, nous paraît être une faute vraiment mineure, parce que arpe et arpège sont des mots dont on n'a pas tellement besoin, alors que le mot arbre, par la fréquence...
On n'a pas discriminé la fréquence... Mais c'est comme ça qu'on corrige une dictée.
Oui, bien sûr.
Par contre, nous avons fait des études précises sur le stock des mots qui sont bien écrits sans faute. Quand on dit qu'il y a tant de fautes, il faut savoir que les mots sont en général écrits à 95%, 98% sans faute. L'accord du participe passé, je vous l'ai dit, c'est 14%. Ça, c'est une catastrophe. Bon. Mais sinon, il y a quantité de mots qui sont parfaitement bien maîtrisés et bien écrits. Et nous avons fait des relevés très précis là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une bonne maîtrise d'un fond lexical et arbre avec un H, on a dû le rencontrer deux fois.
L'impression qu'on a, que beaucoup de gens ont, que l'orthographe est pas aujourd'hui qu'en trois fois, n'est pas plutôt dans les milieux d'élite, si on peut dire. C'est-à-dire que les ingénieurs écrivent mal, les informaticiens écrivent mal, ça font des fautes d'orthographe, que les polytechniciens ou les élèves des grandes écoles font des fautes, etc. Alors que ça n'était pas le cas autrefois. Enfin, peut-être moins le cas autrefois.
Je pense pas que ça n'était moins le cas autrefois. Ça se voyait moins parce qu'il y a 10 fois plus d'ingénieurs. Je ne sais pas de combien la population des ingénieurs a pu se multiplier dans les 30 dernières années. Ça doit être multiplié par 10. Bon. C'est-à-dire que si vous comparez les 5000 ingénieurs aux 500 ingénieurs qui existaient, bien sûr, vous direz qu'il y a des ingénieurs qui font des fautes. Vous voyez, c'est toujours là le problème.
L'accord du pluriel, est-ce qu'il y a une grosse différence ?
Entre le 19e et le 20e siècle, oui, il est mieux réussi au 19e qu'au 20e. Comme toutes les fautes de grammaire, de manière générale.
Alors, si vous permettez, madame, moi, on nous avons souvent avec madame Bertrandil. Et il y a une chose dont je voulais vous parler, parce que je l'ai vu fonctionner. Il existe maintenant des ordinateurs qui corrigent. Alors, j'ai vu fonctionner un ordinateur dans une entreprise d'objets en polypropylène avec des éléments de sérigraphie. Donc, des mots très, très spécifiques à l'entreprise, et l'entreprise a enseigné à l'ordinateur ces mots-là, et donc ils sont toujours très bien écrits. Mais puisqu'on a fait avaler à l'ordinateur le bottin des postes et téléphones, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas avaler la Larousse.
C'est déjà fait, il y a des correcteurs d'orthographe.
Mais attention, est-ce qu'on peut les faire avaler aussi?
C'est pas seulement ça, c'est que vous avez des problèmes de contexte aussi. L'ordinateur peut pas tout, il est quand même bête, l'ordinateur.
Mais pour faire le choix, donc il y a plusieurs possibilités, même s'il y en a plus de deux.
Oui, alors...
En général, l'ordinateur vous corrobore ce que vous avez écrit si ce que vous avez écrit est un mot existant. Si vous avez commis une faute, et que cette faute ne permet pas à l'ordinateur d'estimer, soit de calculer, parce que ce sont comme les synapses qui se recoupent l'un à l'autre, si l'émission du mot renvoyée à sa mémoire trouve ce mot dans sa mémoire, il ne corrigera pas autrement. Alors, un exemple assez répandu actuellement, c'est si vous confondez voir le verbe avec le voir, l'adverbe restrictif, il y avait des 30 personnes, voire 32. Comme le verbe voir existe, selon la programmation de notre ordinateur, les ordinateurs qu'on vend dans le commerce, vous ne parlez pas de l'industriel qui avait programmé le sien pour son propre besoin, parce qu'il a besoin d'une centaine de noms techniques qui n'existent même pas dans les ordinateurs du commerce. L'ordinateur du commerce qu'utilise énormément de journalistes et hélas de producteurs. Il y a les deux.
Puis tout le monde ne va pas vivre avec un ordinateur dans sa poche.
Attendez, les enfants actuellement sont beaucoup plus enclins à avoir une réponse dans l'écran que de feuilleter un point.
Non, c'est parler trop vite. Non, il y a des tas d'enfants qui vivent sans ordinateur et sans. Non. Très largement, l'orthographe française est une question de mémoire, oui.
Dans les autres pays,
la dictée est un exercice très français. Elle existe en Angleterre, mais où l'orthographe est très compliquée aussi, l'orthographe anglaise. Il n'y a pas d'orthographe grammaticale du tout, puisque tous les pluriels s'entendent, puisqu'il n'y a pas d'orthographe grammaticale, c'est déjà ça. Mais l'orthographe lexicale en anglais est compliquée. Mais l'orthographe n'est pas du tout valorisée comme elle l'est chez nous. Ce n'est pas un problème. On fait des dictées, mais beaucoup moins. Elle n'est pas du tout un critère de propreté, d'éducation, comme elle l'est chez nous. Alors, en Italie, en Espagne, on n'a pas besoin. On fait des dictées, mais beaucoup moins de la dictée, parce que l'orthographe est quasi phonétique. En espagnol, vous avez des H encore qui se promènent. Vous pouvez confondre les B et les V en espagnol, et puis c'est tout, c'est fini. En allemand, ça, j'en sais rien du tout. L'allemand n'arrête pas de réformer. Ils ont fait 6 réformes depuis l'unification allemande. Ils ajustent leur orthographe à la réalité de la langue.
Moi, j'ai passé mon certificat d'études en 1922. Donc, j'avais commencé les classes primaires en 1915. Et je peux vous dire que c'était les mêmes pour les filles et les garçons. Et au certificat d'études, on a eu les mêmes problèmes.
Ah oui.
Ah oui, mais...
C'est dès Jules Ferry, il y a une école obligatoire pour les filles et les garçons, bien sûr.
En 8 ou 15 jours, en faisant des petits exercices un peu tous les soirs, comme ça, en retournant le problème dans tous les sens, il ne faut quasiment jamais de faute de participation. Donc, au niveau de l'enseignement actuel, je pense que c'est une option
plus que du temps.
Non, si, c'est beaucoup de temps. Quiconque a enseigné l'accord du participe passé, on peut le faire acquérir et il repère. Les acquisitions se repèrent. Vous ne pouvez pas comparer le temps qu'une mère cultivée consacre à ses enfants, qui sont des enfants cultivés d'une mère cultivée qui les aide. Vous ne pouvez pas le comparer au temps qu'il faut pour mener une classe de 30 enfants à connaître une règle qui est absurde. Cette règle, elle contrevient complètement à tout ce qui... Mais tout ce... Attendez, excusez-moi, je voudrais finir ma phrase. Elle contrevient. En français, on accorde avec le sujet. Vous êtes dans la seule situation où on accorde avec l'objet. C'est-à-dire qu'elle va contre le sentiment linguistique complètement. Bon, cette règle, elle est ce qu'elle est. Elle a été stabilisée seulement au XVIIIe siècle. Hein, et obligatoire à partir de 1835. Hein, avant, il flotte complètement l'accord du participe passé. Quand je vous dis Sainte-Beuve et Georges Sand ne l'accordaient pas, c'est parce que c'était encore en débat. Il y a eu un siècle de débat sur cet accord du participe passé. Et puis, c'est quand les instituteurs ont fini par vraiment la savoir, cette règle, bon, ben, cette fois-ci, ils n'ont plus voulu la lâcher. Mais je vous signale que cette règle est abolie depuis 1901 par un arrêté qui n'a jamais été ni appliqué, ni abrogé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ça.
On sait qu'il y a des enfants qui n'ont pas un livre ni un journal en français chez eux.
Bon, il y en a, ils ont quand même peut-être des journaux dans une autre langue, ils ont des bibliothèques, ils ont des CDI, ils ont... Et on ne peut pas dire on va faire l'enseignement seulement pour eux, parce que là, on... Bon, mais la question, c'est que tous les jeunes enfants n'ont pas des parents cultivés qui s'occupent du participe passé. Je dois vous dire que j'ai des enfants, moi, qui ont 17 et 21 ans, et je ne sais pas s'ils accordent ou pas l'accord du participe passé. Je ne crois pas qu'ils se fassent de faute à l'oral, mais à l'écrit, je suis bien convaincue. Ils écrivent bien, mais je n'ai jamais eu l'occasion de les coincer là-dessus.
On peut noter qu'il y a des gens qui ne font pas une feuille fauche, comme dans les championnats.
Le champion de l'année dernière avait deux fautes, je vous ferai remarquer. C'est-à-dire, il n'y a pas un Français qui possède toute sa langue. C'est le seul pays au monde où on fait des championnats comme des championnats de boxe ou des jeux du cirque. Jamais on a vu ça. Et deuxième chose, la personne qui possède, et ils sont géniaux, hein, les gens qui sont les champions, ben le champion de l'année dernière, il faisait deux fautes. Ça veut dire que personne n'a toute la langue, ne maîtrise entièrement sa langue écrite ici.
Une qui revient très souvent, c'est la confusion entre le participe passé et l'infinitif. Vous classez ça comment? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une...
C'est une faute lourde de grammaire, ça. C'est-à-dire, vous voyez, le problème de l'orthographe française, c'est qu'on est obligé d'être grammairien pour écrire l'orthographe. Ce dont n'ont pas besoin les Espagnols ou les Italiens. Ils écrivent ce qu'ils entendent. Alors, il faut analyser. Ils ont cherché ou ils vont chercher. Et voilà, deux cherchés qui s'écrivent différemment. Il faut être grammairien, c'est-à-dire, attention, là c'est un infinitif, là c'est un participe passé. Bon, c'est-à-dire qu'il faut avoir toujours un sens que nous appelons un sens métalinguistique sur la langue pour écrire l'orthographe. Il n'y a pas de relation entre... Parce que sinon, du point de vue de l'oral, les deux formes sont identiques, vous en êtes d'accord. Il y a neuf manières d'écrire « chercher » dans la conjugaison verbale, « chercher » à « it », à « ient », et, etc., et, s, etc. Bon, il y en a 8 ou 9. Il faut analyser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas, on comprend très bien ce qu'on écrit, ça veut dire qu'on analyse mal. Ça, c'est autre chose. Mais je peux coller n'importe qui d'entre vous, et vous pouvez me coller aussi sur la grammaire. Je peux vous coller en grammaire. Je peux vous coller sur l'accord du participe passé avec les verbes réfléchis. Moi, je vis avec dictionnaire comme tout le monde, hein. Je sais l'orthographe, je pense. Je ne fais pas de faute d'orthographe, comme on dit. Tous les gens qui disent qu'ils ne font pas de faute d'orthographe, ils en font, en vrai. Tous ceux qui ont écrit un livre, déjà, ou un article dans leur vie, savent qu'ils ont toujours laissé passer des fautes.